Radio Kapi. Oh, Kapi.
Justine Moussa Oponde pour le journal.
Plusieurs incidents ont été enregistrés durant les trois premières semaines de campagne électorale. Le cadre de concertation de la société civile du Lualaba a dressé ce bilan le week-end à Kolwezi. Fin hier de l'opération de vaccination contre la rougeole à Kamako dans le Kasaï. La cité est actuellement un lieu de transit important pour les Congolais réfugiés d'Angola. Plus de 42 000 enfants ont été ciblés. Grégoire Ngalamouloumé, ministre provincial du plan au Kasaï central, est notre invité. Il revient sur la présentation il y a quelques jours à Kananga du rapport des objectifs prioritaires pour le développement durable de la province. Bonjour à tous. Le cadre de concertation de la société civile du Lualaba dresse le bilan de la campagne électorale à Kolwezi sur la période allant du 22 octobre au 15 décembre 2018. Au cours d'une réunion d'évaluation tenue le week-end, la société civile s'est dit préoccupée par plusieurs incidents enregistrés pendant ces trois semaines de campagne électorale. C'est notamment l'interdiction faite à certains candidats de battre campagne à Kolwezi, des appels à la haine et autres actes de violence et d'incivisme. Le cadre de concertation demande au pouvoir public de la province du Lualaba d'ouvrir l'espace politique à tous. Shadrach Moukad est joint par Karim Mutopemridassi.
On a constaté qu'il y a eu dans la ville de Kolwezi des violences verbales, des discours diffamatoires, discourtoires dans les chefs de certains candidats à la députation. Il y a eu des injures publiques proférées par certains militants des regroupements politiques. Il y a eu également des violences physiques, coups et blessures infligées à certains partisans des candidats parce qu'ils portent des t-shirts de tel ou tel autre candidat. La destruction méchante des effigies des candidats. Le cadre de concertation de la société civile a fustigé l'empêchement du candidat de la plateforme Lamouka d'arriver à Kolwezi pour battre librement campagne. Il est de bon aloi que dans la démocratie qu'on laisse à tous les candidats les mêmes chances qu'on réserve aux autres. Nous avons également fustigé l'empêchement qu'a subi le candidat à la présidence Ngoube Ngoube qui devait accéder à Kolwezi. Nous voulons que tous les candidats, qu'ils soient présidents ou à la députation, qu'on puisse les accorder tous les mêmes chances, comme on estime accorder aux candidats de la majorité présidentielle qui est arrivée à Kolwezi à battre campagne.
Toujours à propos de la campagne électorale, dans la province du Kwilu, des incidents ont été signalés hier dimanche à Gungu. Trois personnes ont été blessées et des biens endommagés. Fabien Kambizi revient sur les faits.
Selon la société civile territoriale de Gungu, ce sont les militants du Palou et des Nouvel Élan d'Adolphe Muzito qui se sont affrontés au niveau du grand marché de Gungu. Joachim Kusamba précise que c'est le passage du cortège du candidat député national du parti Lumumbiste unifié, Willy Makiashi, au grand marché de la cité où se tenait le meeting de Nouvel Élan par le candidat Kashiki qui a fait déborder les vases. Pour s'effrayer un passage dans cette foule, pour atteindre les stades, endroit prévu pour leur meeting, les policiers qui accompagnaient les candidats du Palou ont dû lancer des gaz lacrymogènes, ce qui a provoqué la colère des militants de l'autre camp, selon nos sources sur place. Bilan, trois personnes blessées, une alimentation au niveau du grand marché Kayassé et la clôture du bureau du Palou détruite. Dans cette colère et confusion, il est difficile, selon la société civile, de connaître les vrais auteurs de ces casses. Kikwite, Fabien Kambizi, Radio Okapi.
Et puis c'est cette question, comment limiter les violences politiques en cette période électorale en RDC? C'est pour répondre à cette question qu'une dizaine d'acteurs de la société civile, des politiques, candidats et journalistes ont échangé ce lundi à Goma. Le but est de préparer les uns et les autres à éviter les violences post-électorales. Freddy Bikumbi nous fait le point.
Ce débat sur les valeurs démocratiques a été organisé par le collectif des radios et télévisions communautaires du Nord Kivu, Korakon, en partenariat avec l'ONG Internews. Il a permis aux acteurs impliqués dans les processus électoraux de donner leur avis sur les causes possibles des violences électorales auxquelles ont, par exemple, fait face certains candidats à la présidentielle de 2018, notamment à Lubumbashi, Kalemie, Kindu, Goma et Beni. S'ils ont, pour la plupart, cité l'intolérance politique, le non-respect de la loi électorale et de la charte de bonne conduite, ils ont insisté aussi sur l'absence de la culture démocratique en RDC. Aussi, pour prévenir d'autres violences qui pourraient survenir au cours de ce cycle électoral, les participants à ces débats ont suggéré aux partis et aux candidats de ne pas annoncer leurs propres résultats avant ceux de la CENI. Les uns et les autres ont demandé qu'il y ait aussi intensification de l'éducation civique au niveau des militants et sympathisants des partis en vue de considérer les élections comme simplement un mode d'accès au pouvoir. Goma, Freddy Bikumbi, Radio Okapi.
Restons au Nord Kivu, des affrontements ont opposé la nuit dernière les FARDC à des présumés rebelles rwandais au pied du mont Mikeno, en plein parc national des Virunga. C'est à une trentaine de kilomètres au nord de Goma, à la frontière avec le Rwanda. Alors que la société civile du territoire de Nyiragongo parle d'une probable attaque de l'armée rwandaise, le porte-parole de la 34e région militaire lui parle d'une embuscade des FTLR Foka contre une patrouille FARDC. Bernard Danyang.
Des tirs nourris ont été entendus hier dimanche de 16h locales jusqu'à tard vers 23h dans la localité de Hé au groupement Kibumba, rapportaient les habitants. Alors que le porte-parole de la 34e région militaire parle de la réponse de l'armée à une embuscade des FDLR Foka, la société civile du territoire de Nyiragongo, elle, parle plutôt d'accrochage entre FARDC et les éléments de l'armée rwandaise. Côté bilan, Major Njiki Kaiko confirme la perte des deux soldats FARDC. Il ajoute par ailleurs que l'armée congolaise continue à contrôler la zone. Pour la société civile de Nyiragongo, ces combats interviennent après une attaque en début de la semaine dernière des présumés FDLR contre une position RDF à Busasamana, en district rwandais voisin de Rubavu. Une attaque qui aurait suscité plusieurs réactions côté rwandais. Depuis 22h la nuit dernière, le village Mutao, nord-ouest du territoire de Nyiragongo, se vidérait déjà de ses habitants après que quelques positions FARDC y ont été dégarnies des militaires. Pendant ce temps, ajoutent d'autres sources, les postes frontaliers de Kabuanga et Gasizi entre l'RDC et le Rwanda dans le Nyiragongo sont fermés depuis ce lundi matin. Goma, Bernard Dinyangi, Radio Kapi.
Je l'ai dit en titre, au Kasaï, plus de 42 000 enfants de 6 à 59 mois ont été vaccinés contre la rougeole à Kamako. La cité est actuellement un lieu de transit important pour les Congolais refoulés d'Angola. Menée par Médecins Sans Frontières, cette vaccination a été bouclée hier dimanche. À en croire la coordinatrice terrain pool d'urgence de cette ONG, vu le degré de vulnérabilité des populations à Kamako, MSF a voulu prévenir la propagation de la maladie et éviter des décès. Sophie Sabatier est jointe au téléphone par François Kadima.
Elle a été faite en deux phases. On ne sait pas par famille, mais et nous avons vacciné 42 600 enfants. On a initié cette campagne de rougeole parce qu'il y a eu une vague de Congolais qui sont rentrés et avec un statut vaccinal qui n'était pas connu. Et plusieurs enfants avaient quand même des suspicions de rougeole. Donc il a été décidé de faire cette campagne préventive contre la rougeole. Ça a concerné en fait les enfants locaux et tous les enfants qui sont refoulés de 6 mois à 59 mois. Malheureusement, nous sommes en train de partir, mais MSF a aussi fait des cliniques mobiles dans la ville de Kamako et à la frontière pour justement ces personnes refoulées d'Angola. Les objectifs de vaccination ont été atteints. Les cliniques mobiles aussi, nous avons réussi à faire des cliniques mobiles.
Et au Congo central, la Fraternité des prisons, une ONG qui lutte pour l'intérêt des détenus, plaide en direction des gouvernements provinciaux et centrales afin qu'ils assistent les détenus du Congo central. Elle affirme que 150 d'entre eux sont morts en détention cette année. En cause, elle cite les conditions de détention, la sous-alimentation et l'absence de soins médicaux. Son président, Néhémie Koussou, décrit la situation. Il est joint par Guy-Roger Niapala.
Pendant cette année, il y a ces cas de décès constatés dans toutes les prisons de la province. La promiscuité dans nos prisons, il y a la majorité de nos prisons ont largement dépassé leur capacité d'accueil. Et ajouté à cela aussi l'insalubrité dans nos prisons, la sous-alimentation et la malnutrition, à l'autorité de la province et au gouvernement central d'avoir un cœur humain, un cœur d'amour pour assumer leurs responsabilités en tant qu'autorité. Parce que quand on arrête une personne, cette personne est privée de la liberté, mais elle a droit aux bonnes conditions, entre autres à la nourriture, aux soins de santé et que sais-je. Donc si l'autorité peut s'efforcer à améliorer les conditions de détention, voir comment à la longue délocaliser même toutes nos prisons, et pour l'instant ce qui est urgent, c'est que l'autorité puisse veiller à l'alimentation de ces détenus, surtout nous sommes à la veille des festivités de Noël et Nouvel An, et après voir comment améliorer toutes ces conditions de détention.
Du côté du ministère provincial de la Justice, on reconnaît des cas de décès dans les prisons, mais on ne confirme pas les chiffres avancés par l'ONG. La même source précise que le ministre provincial de la Justice a effectué récemment une tournée des prisons pour se rendre compte de la situation afin d'y apporter des solutions.
L'invité.
Le gouvernement du Kasaï central a présenté il y a quelques jours à Kananga le rapport des objectifs prioritaires pour les développements durables de la province ODD. Invité de Radio Okapi, le ministre provincial du plan assure que la finalisation de ce document constitue une étape décisive dans l'élaboration du plan qui va guider les actions de développement de la province pour les 5 prochaines années. Grégoire Ngalamoulomé s'entretient avec Blaise Ndongala.
Bonjour monsieur le ministre.
Bonjour monsieur le journaliste.
Le gouvernement provincial du Kasaï central a lancé officiellement les rapports sur la localisation des ODD. Quelles sont les grandes lignes de ces documents?
D'emblée, nous tenons à dire à la population du Kasaï central que nous sommes heureux d'avoir bouclé un des premiers processus de planification relatif à la localisation des objectifs de développement durable. Les objectifs de développement durable font partie de l'agenda 2030 de la communauté internationale. Ces objectifs sont à 17 avec leurs cibles et des indicateurs. Mais il est important que chaque pays et chaque communauté, chaque province essaye plus ou moins de contextualiser ces objectifs-là. Ce sont des objectifs qui ont été adoptés au niveau global, au niveau de la communauté internationale et donc les contextes sont tout à fait différents. Les choses qui peuvent être prioritaires au niveau, par exemple, du Kasaï central peuvent ne pas l'être au niveau de l'Ituri, en fonction de différences de contexte. Et le processus de planification que nous avons bouclé consistait effectivement à contextualiser, à prioriser nos cibles des objectifs de développement durable. Quelles sont les grandes lignes pour revenir effectivement à votre question? C'est qu'au niveau de ces objectifs, nous devons retenir que par rapport à la République démocratique du Congo, le Kasaï central retient à prioriser tous les 17 objectifs de développement durable, mais au niveau des cibles, au lieu de 62 cibles, nous en avons retenu 39. Quand on fait un exercice de comparaison avec le niveau national, nous avons plus ou moins 19 cibles qui nous sont plus ou moins spécifiques. Ce sont des cibles relatives notamment à la paix, parce que nous sommes une province post-conflit, à la malnutrition, à l'accès aux services de base. En plus de ces 39 cibles prioritaires pour la province du Kasaï central, nous avons également 62 indicateurs qui sont adossés à ces cibles-là. Maintenant, nous savons plus ou moins ce que nous voulons, qu'est-ce que nous voulons atteindre d'ici 2030. Mais le premier exercice consistait à prioriser de 2018 à 2022. Au cours des 5 prochaines années, les politiques publiques qui doivent être menées au niveau de la province doivent être articulées autour de ces différents objectifs et des cibles qui doivent être atteintes pour l'amélioration de la situation des communautés au niveau du Kasaï central.
Quelle est l'importance de cet exercice de localisation pour la province du Kasaï central?
C'est un exercice important, c'est la planification. En d'autres termes, on se fixe des objectifs. Qu'est-ce qu'on veut devenir? C'est-à-dire, à partir de l'analyse de la situation, à partir de l'analyse du contexte, nous avons des besoins, mais en même temps, nous avons des priorités. On ne peut pas tout faire au même moment. Nous avons une diversité de besoins, mais il va falloir se décider quelles sont nos priorités. C'est l'exercice qui a été fait avec la localisation des ODD. Et donc, les cibles ayant été retenues, ayant été définies, ces cibles devaient être versées au niveau du deuxième processus de planification et que nous sommes en train également de boucler, c'est l'élaboration du plan de développement de la province. Et donc, toutes ces cibles ont été intégrées dans le plan de développement de la province et donc la planification a consisté cette fois-là à définir un certain nombre de programmes et de projets pour arriver à atteindre les résultats que nous voulons pour l'amélioration, comme je le disais, de la situation de la province.
À quand la mise en œuvre effective de ce plan de développement?
Le plan avait été validé le 9 novembre 2018. Nous sommes dans la phase de production du document lui-même que nous allons devoir lancer au cours du mois de janvier. C'est un plan qui est élaboré pour 2019 à 2022. À partir de l'année prochaine, toutes les politiques publiques qui doivent être mises en œuvre au niveau de la province doivent être des politiques alignées sur les orientations stratégiques retenues au niveau du plan de développement.
Un message à toute la population sans qui attend beaucoup de ces plans de développement.
Le premier défi, c'est l'engagement au niveau des autorités politiques, mais en même temps, l'appropriation de l'ensemble de la population de ces différents outils de planification que nous venons d'adopter. Il faut que tout le monde sache que nous avons un plan de développement, nous avons des cibles, des objectifs de développement durable priorisés pour la province, et chacun doit travailler par rapport à cette planification et à ces objectifs que nous nous sommes fixés. Le deuxième message, il est relatif notamment à la mobilisation des ressources. Ce c'est un défi de taille. Nous devons avoir un certain nombre de ressources pour nous permettre de mettre en œuvre ces outils que nous sommes dotés. Mais l'absence de moyens ou l'insuffisance de moyens ne doit pas être une façon de nous soustraire à nos engagements pour faire des choses de manière plus ou moins correcte. Nous savons que nous n'avons pas suffisamment de moyens, mais nous devons mettre en place des stratégies pour mobiliser ces différentes ressources qui doivent nous permettre de mettre en œuvre les objectifs que nous sommes assignés.
Messieurs les ministres, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.